planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal CV.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
7h01. Bonjour à tous, bon matin, bienvenue au FM 93. Nous sommes dimanche, le 17 mars 2019. Mon nom est Paul-Raphaël Charon, je suis en compagnie de Son Altesse, sa très sainte majesté Pascal CV. Bonjour Pascal.
Salut, vraiment content d'être là.
Et Kevin Bridge, bien sûr, qui est avec nous.
On l'a. Hein?
Bonjour Kevin. On va tout de suite aller faire le tour de l'actualité, Kevin.
Oui, bien Paul, à Saint-Augustin, le toit du centre communautaire Jean-Marie Roy s'est effondré partiellement hier en avant-midi. Selon la direction, c'est la section où se trouvent les gymnases qui a été touchée par cet incident. Le bâtiment a été inoccupé depuis juin dernier en raison d'un projet partiel de démolition et de reconstruction dans les derniers mois. Aucune personne ne se trouvait donc à l'intérieur au moment de l'effondrement. En Nouvelle-Zélande, l'homme accusé d'avoir fait 50 victimes dans la fusillade des deux mosquées de Christchurch vendredi a envoyé son manifeste au cabinet de la première ministre du pays quelques minutes avant de passer à l'acte. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a indiqué aujourd'hui qu'elle faisait partie d'une trentaine de personnes qui ont reçu le document de 74 pages. L'auteur du manifeste, Brenton Tarrant, a été interpellé une demi-heure après le début de la tuerie vendredi. Et la grande chanteuse Nicole Martin est décédée un peu plus tôt dans le dernier mois à l'âge de 69 ans. Son mari et impresario Lee Abbott a annoncé son décès hier sur la page Facebook officielle de l'artiste. Nicole Martin est décédée le 19 février après avoir été foudroyée par la maladie. Monsieur Abbott soutient qu'il a attendu un mois pour annoncer la nouvelle afin de respecter les dernières volontés de sa conjointe.
Je pensais que ce serait une journée plein soleil, mais Météo Média m'a fait mentir hier. Mentir éhontément, je dirais même.
Hey, que j'ai pensé à toi ce matin. C'est supposé être la belle journée de la semaine. Je avec le vent, la neige. OK.
Ouais, d'ailleurs, ce matin, je vous déconseille de prendre la même décision que moi, c'est-à-dire casquette et godasse. Là. Les bottes, ça marche encore. La tuque, c'est encore très bon.
Un petit poncho, en plus, c'est ça qui t'habillait ce matin.
Fiez-vous sur moi. Le max est à moins 5 cet après-midi. Des passages nuageux en matinée, quelques petits flocons, mais ça reste isolé. Il y aura des éclaircies et des percées de soleil en après-midi, selon Météo Média. Je vais citer ma source. La nuit prochaine, c'est frisquet quand même, moins 11. Demain, pour le retour au travail, ciel variable, max moins 4 et ça se réchauffe. Plus on avance dans la semaine, moins 2 et même 4 au-dessus de 0 pour mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, on attend quelques précipitations sous forme de pluie et neige. Là, c'est vraiment la saison pour ça. Présentement, c'est moins 9 à Québec.
Dans la Ligue nationale de hockey, le gardien de but québécois Corey Crawford s'est montré intraitable hier soir face au Canadien de Montréal. Il a permis aux Blackhawks de Chicago de l'emporter par la marque de 2-0. Première étoile du match, Crawford a effectué 48 arrêts pour mener son équipe à une cinquième victoire de suite. Avec 10 matchs à jouer, le Canadien accuse maintenant un retard de 3 points sur les Blue Jackets de Columbus et le 8e et dernier rang qui donne accès aux séries éliminatoires. En surf des neiges, Laurie Blouin a une fois de plus épaté la galerie en s'emparant de la médaille d'argent à l'épreuve féminine de Big Air en surf des neiges à la Coupe du monde de Québec. Son amie, l'Américaine Julia Marino, est montée sur la plus haute marche du podium. Et au tennis à Indian Wells, au tableau masculin, l'Autrichien Dominic Thiem a vaincu Milos Raonic hier en 3 manches. En demi-finale, Thiem va retrouver en finale le Suisse Roger Federer.
Alors, Pascal, j'espère que tu passes de belles matinées.
Ah, ça va bien jusqu'en matin, 7h04.
Est-ce que tu as passé la soirée avec notre ami Kevin Bridge?
Je pense que c'est lui qui m'a donné le micro.
Sans avoir attrapé un rhume.
On rit de toi depuis pour vrai 5 minutes.
Pour vrai?
Oui.
Secret de coulisses pendant que Kevin fait ses nouvelles. Kevin est dans une pièce à part de Pascal et moi. On aimerait l'avoir avec nous. Mais comme c'est lui qui est derrière le grand piano pour la mise en onde, ben, il est dans une pièce, dans une régie à côté de nous. Mais on le voit à travers la fenêtre, bien sûr. Alors, quand Kevin fait ses nouvelles, nous, on ferme les micros, on dit « Ah, on dirait qu'il y a le rhume! » Puis là, on manigance, évidemment.
Ben oui, on manigance d'ouvrir le show avec une voix comme
Kevin. As-tu passé la soirée dehors, genre au Jamboree?
Non, même pas. Non, même pas.
Il a endormi les fesses à l'air. Comment on dit ça? C'est quoi l'expression? Il s'est couché les fesses à l'air.
Il est sorti dehors les fesses à l'air, non, c'est pas ça.
Il s'est couché les fesses à l'air.
Ah, peut-être.
Ah, bah, moi, en tout cas, aidez-nous.
Je connais pas cette expression-là.
Mais aidez-nous, c'est peut-être trop vieux pour nous.
Ouais. On va jouer à compléter l'expression. Il a fait quelque chose, les fesses à l'air. Grosse soirée de sport hier.
Oui.
Je me suis plu énormément à regarder le match de l'Impact. J'en parlerai pas tellement longtemps parce qu'à toutes les fois que je parle de soccer en onde, j'entends, je vous entends changer de poste.
Je quitte le studio.
Pascal s'en va, menace de démissionner.
Est-ce que ta communauté sur Twitter t'a encore suivi hier? Avec
J'ai eu un j'aime et un commentaire. Alors, voilà. C'était assez tranquille.
C'est, non, c'est ta communauté. Voilà, trois personnes.
Deux personnes sont dans ma communauté. Non, mais honnêtement, je veux pas vous vendre le soccer comme je le fais souvent, mais c'est pas mal plus le fun ces temps-ci d'être un partisan de l'Impact qu'un un partisan des Canadiens de Montréal.
Ah, c'est pour ça que je te crois. Là.
Quelle déception hier, le match des Canadiens. Une chance que mon Impact de Montréal avait gagné pour me remettre un peu de bonne humeur, parce que franchement, il faut dire que hier, moi, j'hallucinais d'entendre le coach dire « Ben écoute, l'effort était là, mais des fois, on gagne pas. 48 tirs, c'est vrai que c'est bon. » J'aurais été curieux de savoir le nombre de chances de marquer, moi, sur 48 tirs.
Ouais, moi aussi, j'aurais été vraiment curieuse.
Oui, toi, Pascal. Pascal, qui est une grande...
Pascal, t'as une grande curiosité.
T'sais. Une curiosité sportive.
curieuse, comme pas une.
Qui n'a pas d'égal. Mais j'aurais été curieux de voir la proportion sur 48 tirs. Là. Combien sont des tirs du revers de la ligne bleue faibles et pas dangereux? Puis combien sont de vraies chances de marquer pour lesquelles Corey Crawford, le gardien des Blackhawks, a dû se signaler? Là.
Mais c'est quand même un peu dommage. T'sais, des genres de parties comme ça, des fois, on veut que l'équipe gagne, puis on se dit, ah, ils vont aller ramasser les deux points, puis finalement, non, on en échappe encore, mais c'est parce qu'en accumulant tout ça toute l'année, ben nécessairement, ces deux points-là, ils vont perdre des positions pour les séries qui arrivent à grands pas. Là.
Pour faire les séries éliminatoires, il faudrait que les Canadiens, dans les 10 prochains matchs, accumulent 2 victoires de plus que les Blue Jackets de Columbus. Ça veut dire qu'il reste 10 matchs, là. Il faudrait, mettons que les Canadiens en gagnent 2 sur 10, il faut que les Blue Jackets les perdent toutes. Tu comprends-tu?
Faut tous les matchs, les Blue Jackets, les perdent.
C'est ça. Ben non, mais c'est pas ça que je veux dire, sauf que tu comprends. Il faut que les Canadiens, au bout de ces 10 matchs-là, aient 2 victoires de plus que les Blue Jackets. Les Blue Jackets, ils jouent ça à tête, en plus.
Hey, vous êtes encore plus mêlant que Mélanie Jolie, là, ce matin.
Non, mais je peux-tu juste vous dire un petit secret de coulisses, parce que j'ai regardé le calendrier des matchs du Canadien. Les 5 derniers matchs du CH, c'est contre, tu t'en parlais, les Blue Jackets. On affronte par la suite les Jets, le Lightning, les Capitals et les Maple Leafs.
Oh là là
ça, c'est des équipes que normalement, c'est un petit peu plus fort que le Canadien.
Ça, c'est toutes des défaites. Pascal, on va aller faire. On va se plonger dans les journaux comme on le fait à tous les matins. Veux-tu y aller? Veux-tu commencer? Tu veux me parler de quoi? De drogue?
Oui, mais juste avant, je veux juste confirmer que l'expression c'est dormir les fesses à l'air. C'est Martin qui nous confirme ça.
Donc, ben oui, mais dormir les fesses à l'air dehors.
Avec un bon coup de vent.
Ça a grande allée.
Oui, c'est vraiment étrange ce que j'ai lu ce matin là, dans le journal.
Oui.
C'est les deux trafiquants de drogue qui ont été interceptés. Bon, ça remonte à 2012-2013, mais quand même, c'est l'histoire qui est intéressante. Et ça sort aujourd'hui dans le Journal de Québec. C'est signé par Éric Thibault. On dit que la GRC enquêtait là, depuis une couple d'années sur Alexandre Préfontaine et Tan Anh-Yung. J'espère que je le prononce bien, mais en même temps, c'est pas si grave par rapport à ce qu'il a fait. Et ces deux-là travaillaient dans un réseau de cocaïne. Ils cachaient la cocaïne dans des réservoirs d'essence de camionnettes.
Ouais,
ils étaient vraiment submergés dans l'essence.
Probablement, c'est ça, des réservoirs d'essence pleins.
Pleins. Ouais, ils siphonnaient le réservoir pour essayer après de reprendre leur cocaïne. C'est de la manière dont on transportait tout ça. Mais on disait aussi qu'ils le mélangeaient avec quelque chose qui est banni, en fait, de Santé Canada, qui a retiré du marché en 1983 parce que c'est cancérigène. Là, j'attire votre attention sur le fait que la cocaïne, c'est pas propre. Vous savez jamais ce qu'elle contient. On parlait de fentanyl dans les derniers mois. Même si vous connaissez votre dealer, on s'entend que lui, il connaît pas nécessairement qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur. Mais ces deux gars-là expédiaient souvent de la cocaïne un peu partout à Terre-Neuve. C'était leur réseau. Ils ont été attrapés en 2012-2013. Mais c'était vraiment une drôle de façon de le faire.
Ce que je comprends pas, c'est que tout ça, on le sait, là. On le sait qu'il y a de la cochonnerie là-dedans. On le sait que c'est des criminels qui importent ça. Mm-hmm. On le sait que c'est mauvais pour la santé. Faut-tu que ce soit addictif pour que les gens continuent d'en prendre?
C'est exactement à ça que j'ai pensé. Oui.
Tu sais, t'as même pas besoin de lire les journaux bien assidûment. On le sait que c'est dévastateur pour la santé. Puis là, tu vois, la nouvelle de ce matin, c'est il y a un produit cancérigène.
Trempé dans l'essence.
Banni depuis 1983 de mémoire, là.
Oui, 1983.
Par Santé Canada, parce que c'est cancérigène, extrêmement mauvais pour les reins, je pense.
Oui.
En tout cas, tu sais, c'est ultra nocif. Ils trempent ça dans des bidons, dans des réservoirs d'essence.
Qui bougent parce que tu le transportes d'une ville à l'autre.
C'est ça.
Bien enrobé.
Puis les gens sont quand même prêts à ingérer ça.
C'est sûr que ça, ils le savaient pas, mais ils connaissent, là, que, tu sais, quand c'est illégal, là, ça arrive pas avec la cigogne, avec le bébé à côté sur le perron.
J'ai regardé récemment une émission d'un genre de... C'est, tu sais, le chef cuisinier anglais, Gordon Ramsay, oui. Bon, lui...
Le colérique, là.
Oui, le colérique est très coloré aussi. Lui, il a perdu un ami qui prenait de la cocaïne, puis il est décédé d'une overdose ou quelque chose comme ça.
Okay? Souvent, dans le monde de la cuisine, restauration, c'est populaire.
C'est un gros problème en restauration parce que c'est des corps de travail de nuit, dans une ambiance assez festive. Puis
pas
d'un autre
ça,
côté, c'est
de travail intense.
Des longs corps de travail.
Exact.
Puis tu finis très tard, tu recommences tôt le lendemain. Bon, tout ça fait en sorte qu'il y a une espèce de culture de consommation de cocaïne en restauration. Là, je vous apprends rien. Et lui, donc, il a décidé qu'il partait là, sur les traces de la cocaïne. Il y en a-tu dans ses restos? Il fait des tests pour savoir si...
Il était sensibilisé par la mort de son ami, si je
c'est
comprends
ça. Puis il va vérifier les surfaces des salles de bain, ces affaires-là. Il trouve qu'il y a de la cocaïne. Il se rend jusqu'en Colombie.
Ben voyons.
Oui. Il se rend jusqu'en Colombie. Et il y a comme un champ, parce que c'est une plante à la base. Là.
Ouais.
Puis là, il rencontre un gars de qui la job, c'est de surveiller le champ, récolter les feuilles, puis de la transformer...
En poudre blanche.
Ben ouais. Écoute, ça finit par être une espèce de poudre là, qui a de l'air de du ciment, si tu veux. Là. Et puis après ça, ben, il envoie ça au cartel, machin. Le gars, il travaille pour les grands barons de la drogue en Amérique centrale, tu sais, en Amérique du Sud. Puis c'est impressionnant la quantité de cochonneries qu'il met là-dedans. De l'essence, des produits chimiques pour séparer telle affaire. Après ça, il dit, tiens, puis c'est vraiment rempli de cochonneries là, ultra nocives. Mais ça, tout le monde le sait.
Ben oui, puis on se demande aussi, tu sais, pourquoi elle est aussi, ben, je dirais, abordable, la cocaïne maintenant. Là, il y a beaucoup de jeunes qui en consomment, on le sait, c'est en recrudescence depuis plusieurs années. C'est le même prix qu'il y a quelques années parce que justement, elle n'est plus pure. Avant, tu pouvais en avoir de la plus pure, de la plus. Je veux même pas dire que c'était bon pour la santé, on s'entend, mais il y avait moins de cochonneries à l'intérieur.
Calvin Bridge pour son rhume, une petite ligne de coke.
Moi, ça aurait été super.
Alors, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est mauvais.
Si vous voulez voir un peu comment ça se passe dans le domaine de la restauration. Il y a Stéphane Larue qui a sorti Le Plongeur il y a quelques années, un livre qui a été extrêmement populaire, même souligné par bien des gens. Et ce gars-là travaillait en restauration, il explique comment les dessous, en fait, des cuisines. Super intéressant. Mais tout ça pour dire que ces deux gars-là ont été arrêtés 2012-2013. Et il y en a un là, qui est toujours en cours. Il va revenir cette semaine pour les plaidoiries sur sa peine. C'est Préfontaine. On estime, le tribunal estime qu'il devrait avoir 6 ans de prison à faire. Et pour Ying, l'autre, son complice, eh bien, il s'en est tiré avec une peine d'un an en 2017, un an de prison seulement. Parce qu'on disait qu'il était rendu dans le droit chemin. Ah, en passant, ces deux gars-là se sont connus là, dans une petite affaire. Là, ça s'appelle la mafia italienne et la paix asiatique.
Je pensais que tu allais dire, oh, genre les Hells Angels. Ah non, tu vois, la mafia italienne et la paix asiatique.
C'est ça,
okay,
juste
bon,
ça.
Ça va. Qu'est-ce qu'il y a?
Je garde une petite affaire pour la fin.
C'est beau, parfait. Je veux pas rouvrir un débat qui a fait mal et qui a polarisé tout le monde. Je veux juste y apporter mon grain de sel. Alors,
vas-y.
Tu comprendras que mon grain de sel, c'est genre, c'est pitcher du sel dans une plaie ouverte, là. Hier, il y a une fillette de 4 ans qui a été mordue au visage par un chien à Saint-Gabriel de Valcartier. C'était l'international de chiens de traîneau de Valcartier.
Mais c'était pas un chien de traîneau, là.
Non, ben c'est-à-dire que
c'est
pas un chien qui participait aux courses.
Mais ça aurait pu en être un.
Mais c'est un malamute. Les malamutes, c'est des chiens qui, traditionnellement, sont connus pour
faire
ça, justement.
Ouais, ça puis les huskies, ouais.
C'est aussi des chiens qui sont connus pour être très forts, assez gros, et pour avoir un potentiel d'agressivité quand même assez élevé.
Ouais, ils sont très puissants, oui.
C'est des chiens, c'est encore proche du chien sauvage, là, tu sais.
C'est proche du chien loup, là.
C'est ça. Un malamute, là, c'est comme un genre de husky, si tu veux.
C'est
là.
Gros, là.
Oui, oui. Or, pourquoi je vous parle de ça, c'est que, vous vous souvenez là, du débat sur les pitbulls, est-ce qu'on les interdit, est-ce qu'on les interdit pas?
Toujours pas terminé. Là.
Toujours pas terminé, puis je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une liste qui avait paru, je me souviens pas si c'était à la Ville de Québec ou à la Ville de Montréal, je pense que c'était un communiqué de la Ville de Québec, mais sous toute réserve, parce que là, je vous parle de mémoire. Puis là, il dressait la liste des chiens qui pourraient être interdits, Et la liste était interminable parce que il y a des croisements aussi, tu sais.
Les chiens bâtards. Là.
Ouais, c'est ça. Là, un pitbull croisé avec un bulldog, puis un pitbull croisé avec un autre, puis là, un croisement avec un autre. Puis
la
un
mère
tel.
Avait déjà deux races, le père avait déjà deux races. Là, tu accouples ça.
Écoute, fait que là, à un moment donné, tu te rends compte que sélectionner les chiens interdits, ça commence à être compliqué, là, tu sais. Et ce matin, en fait, hier, quand j'ai vu le titre « Fillette de 4 ans mordue au visage par un chien », je me suis dit « Oh non, on va repartir le débat sur les pitbulls ». Et pour moi, cette histoire-là, c'est la démonstration que l'interdiction des pitbulls, ça peut pas être une solution. C'est impossible. Pourquoi? Ben, démonstration faite. C'est un malamute qui a mordu la fillette hier. Tu sais, alors, interdire les pitbulls, pour moi, c'est mettre un plaster sur une fracture ouverte.
Ouais.
Tu vas dire « Ok, on interdit cette sorte-là ». Ouais, OK, mais le caniche royal, c'est un chien qui est capable d'être agressif aussi. Le dalmatien, c'est un chien qui a un très haut potentiel d'agressivité.
On a eu des labradors mordre aussi.
Ben,
là.
Oui.
Des border collies mordre aussi.
Comment t'appelles ça?
Des border collies.
Des border collies?
Oui, c'est les beaux chiens. Là.
Moi, j'aurais appelé ça un border collie, mais c'est pas de mes affaires. Ben,
excuse-moi.
Border collie.
Un border collie.
Hey, d'ailleurs, Kevin Bridge, à la réception, là, le gars de Post Canada vient de passer. T'as reçu ton collie?
Ah, OK, parfait.
Si, excusez-la. J'ai pas fait exprès.
Hey, moi, je l'ai même pas compris, ça.
Elle est passée à travers le filtre. Puis l'autre question aussi que ça soulève, cette patente-là de malamute qui a mordu une fillette. Je vais vraiment me faire haïr de tous les parents. Puis je veux pas mettre la faute de ses parents. C'est pas ça mon intention. Je veux juste soulever la question.
Ouais.
Je soulève. Un enfant de 4 ans, c'est petit, à moi, t'as dit. Je me souviens quand je travaillais au terrain de jeu. Là. Les petits de 4 ans, c'était les plus petits. T'sais. Ça allait de 4 à 14. Là.
C'est sûr que c'était les plus petits si c'était le premier âge de quelqu'un qui
s'acceptait. Non, mais physiquement, je veux dire, c'est petit, un enfant de 4 ans. Là. C'est avant la maternelle, un enfant de 4 ans. C'est tout petit encore, là, tu sais. Il y en a qui s'expriment mal encore à 4 ans. Ils n'ont même pas encore appris à parler comme il faut, là, tu sais. C'est petit, 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette fillette-là se fasse mordre par un des chiens qui était présent?
Moi, je me suis dit, elle l'a-tu approché, elle l'a-tu flatté, elle l'a-tu entré dans son environnement quand le chien était pas prêt. Mais en même temps, je suis pas prête à mettre ça sur la faute de la petite parce qu'un enfant, là, c'est aussi... On sait pas ce qu'il va faire, l'enfant. Sauf que, pourquoi... Puis là, c'est quelqu'un qui nous a écrit « muselière et muselière ouais, ». C'est vrai que si tu vas dans un endroit qui est bondé, le chien peut se sentir persécuté.
Mais là,
pas prendre les démarches.
T'es à l'international de chiens de traîneau.
C'est oui, mais ton chien participe pas.
C'est su de tous que c'est un endroit où il va y avoir des chiens. Les chiens sont les bienvenus. Le chien est en laisse. Puis je te dis, je soulève la question parce que je suis pas capable d'y répondre. Je veux dire, moi, je me mets à la place du parent, je serais furieux. Puis les parents, d'ailleurs, n'ont pas décidé là, s'ils allaient porter plainte ou non.
Ouais,
là. Puis ça va être à suivre. Puis c'est pour ça que je vous dis, je veux pas mettre la faute de ses parents. Mais je suis pas prêt non plus à mettre la faute à 100% sur le maître du chien. C'est ça mon point.
Non, mais tu peux te poser la question, est-ce que je peux prendre plus de mesures de sécurité que celles qu'on me propose quand mon chien a eu un premier acte de violence? J'ai une amie, OK, elle a un border collie. Elle avait un border collie. Et c'est un chien qui est connu pour être assez jovial, gentil, expressif, blablabla. Puis à un moment donné, il a snappé. Il l'a snappé, elle, sur le mollet parce qu'elle l'empêchait d'aller voir un autre chien. Et est allée voir le vétérinaire parce qu'elle s'est dit, elle a commencé à avoir peur. Elle voudrait être exactement un peu après la polémique des pitbulls. Il y a un problème de santé mentale, son chien.
Ben voyons donc.
Je te le jure.
Ça, là.
C'est pas un problème comportemental, c'est un problème de santé mentale. Et à ce moment-là,
ça,
je te le jure.
Oh là là, que j'ai de la misère.
Et
avec
en
ça.
Ce moment-là, les vétérinaires ont dit, il va falloir qu'il soit médicamenté toute sa vie.
Ah, que
puis
ça,
apprendre
j'ai de
ou à laisser.
Avec ça.
Mais une couple de fois, son chien, il a voulu snapper et il l'a fait euthanasier au moment où l'on se parle.
Mais ça, mais ça, là, c'est triste, mais c'est responsable. Un chien qui est agressif de manière presque systématique.
Non, il l'était pas de façon
écoute
systématique.
Ben là,
c'est quand ses deux fils se touchaient.
Je me souviens, j'ai un très bon ami dans sa famille, il y a plusieurs années, dans sa famille, il avait adopté un petit caniche royal qui est devenu grand, tu sais.
Oui, c'est ça.
Un caniche royal, mâle. Ça peut avoir un potentiel d'agressivité. Eux autres, il y avait eu les cours d'élevage, puis tout ça, puis de dressage. Mais, écoute, c'était un mâle alpha, puis il était devenu le maître de la maison.
Mm-hmm.
Ce qui faisait en sorte que, même s'il avait essayé de le dresser comme il faut, à toutes les fois que quelqu'un rentrait dans la maison, on se demandait si on allait se faire mordre.
Oui.
Puis la famille, ils trouvaient ça plate parce qu'ils s'en rendaient bien compte. C'était des gens intelligents, c'était des gens responsables. Ils ont essayé, tant bien que mal, de s'occuper du chien. Puis ça a fini que ça n'a pas marché. Il a fallu qu'ils le fassent euthanasier. Entre-temps, le vétérinaire... Là, je m'excuse à tous les vétérinaires qui sont bons et honnêtes, là, mais j'en revenais pas. Le vétérinaire, il a diagnostiqué une dépression nerveuse au chien. Et là, le chien prenait des antidépresseurs. Je m'excuse.
Je te dis
c'est
quoi,
complètement fou. Non, mais ça a même affaire.
Ouais, je dis, peu... on ne peut pas savoir, on n'est pas spécialiste.
Non, mais là, tu me racontes l'histoire de ton ami, le chien a une maladie mentale.
Il y a deux fils qui se touchent. Là, ben, là, il réagit.
Ça se peut pas. L'autre chien qui était, écoute, ils l'ont mis ses antidépresseurs. Ça n'a pas dit, je dis ridicule.
Mais ils ont fini par le faire euthanasier. C'est un être vivant. Peut-être que c'est vrai. Il y a un cerveau, chien-là. Peut-être que c'est vrai. Je ne suis pas vétérinaire. Je ne peux même pas me prononcer. J'ai même pas une once de jugement là-dedans.
Moi, j'ai perdu foi en les vétérinaires. Puis, encore, je le répète, là, je sais qu'il y a plein de vétérinaires super honnêtes. Là. Peut-être qu'il y a des vétérinaires qui nous écoutent et qui vont dire ouais, on charron.
Tu peux pas les mettre tout dans le même panier.
Non, c'est ça. Je sais qu'il y en a des vétérinaires honnêtes puis qui tentent de faire leur travail le mieux qu'ils peuvent. Là. Mais je connais un gars, OK, qui a déjà. Qui avait un chien, puis le chien, à un moment donné, il a mangé du cannabis. OK? Je t'épargne les détails, là. C'était pas volontaire, mais le chien a mangé du cannabis.
Ça va où avec ça?
Il l'envoie. Non, mais là, après ça, il en débarque chez le vétérinaire, mais là, il voulait pas trop le dire. Mm-hmm. C'était pas légal à l'époque, tu sais. Puis là, il veut pas trop dire, ouais, mon chien a mangé du cannabis. C'est pour ça qu'il est comme dans cet état-là, tu sais. Parce qu'il était vraiment, là, le chien, là.
Un peu comme un humain qui prend du cannabis.
Non, ben, un peu pire, là, okay. Parce que, tu sais, il était tout mou, puis. Puis il était sur le bord, tu sais, il avait comme pas encore perdu connaissance, mais il respirait plus fort, là. Il filait pas, là, le chien, là, pas en tout. Ben, écoute, le vétérinaire, il a diagnostiqué une maladie, là, au nom à coucher dehors qui finit plus, avec une médication qui coûtait des centaines de dollars. Puis la famille, à la place, ils ont décidé, ben, à la place. Ils ont vu que le chien était mal. Il avait quand même un certain âge, le chien. Ils m'ont dit, ben là, tant qu'à payer, mettons, 1500$ de traitement, on va le faire euthanasier.
Mais j'ai pas l'impression.
Je m'excuse, attends, le chien, il avait mangé du cannabis.
Ouais.
Le vétérinaire, il a diagnostiqué une maladie au non accouché dehors. Ça prenait des médicaments à 1500$, alors qu'on se doute tous que s'il avait juste attendu, expulsé ce qu'il avait mangé, il serait probablement revenu normal.
Non, je sais, mais il y a des erreurs médicales et des erreurs vétérinaires, ça j'en suis convaincue, mais je suis pas prête à dire. Tu sais, vétérinaire, quand tu lui poses la question, c'est quoi l'aspect le plus difficile de ton métier? C'est d'euthanasier des animaux. Alors, je me dis, c'est sûr que t'as des connaisseurs qui veulent de l'argent puis qui vont dire, moi, je vais donner des médicaments qui coûtent les yeux de la tête puis qui fait en sorte que je vais me faire de l'argent tout au long de ma vie avec cet animal-là. Mais d'un autre côté, si tu vois le gars, il est pas capable de le payer, le propriétaire, ça me surprendrait qu'ils disent, ben, OK, ça, c'est la solution, les médicaments. Sachant qu'ils peuvent pas payer, il sait qu'il va aller faire euthanasie. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi. En passant,
oui.
On est allé dans un chenil de chiens. C'est pas un élevage, mais aussi le gars en Beauce. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de gérer ces chiens-là à gros comportements agressifs. Ça vous tente, si vous en avez besoin, ça vous tente que je donne le nom, je l'ai pas sur le coup, là. Écrivez-moi par texto 25226, je vous le donnerai. Ce monsieur-là, c'est une révélation. Il est connu beaucoup dans son travail. Et je te le dis, il travaille avec, comme tu dis, les mâles alpha, là. Mm-hmm. Il dit, c'est juste une question de prendre possession de son chien puis de lui faire comprendre que c'est toi le mâle alpha de ta maison. Puis, je suis très d'accord avec ce qu'on a écrit au 25-26. Il y avait beaucoup de stimulation pour le chien, entouré de gens, à la hauteur des genoux, probablement fatigué, le chien, l'enfant peut-être à la hauteur de son visage.
C'est vrai.
Si tu t'en vas avec ton chien dans un endroit public, et je répète, prends plus de précautions.
Ben, tu vois, puis moi, l'idée de la muselière, quand tu sors dans une foule, je suis pas contre ça du tout. Au contraire, je pense que c'est quand même une bonne idée. Mettre une muselière à un chien constamment, plus de misère. Je trouve
constamment,
que
c'est un peu...
C'est peut-être un peu exagéré. On reviendra peut-être dans quelques minutes avec vos réactions parce qu'elles sont nombreuses au 25-226. Simplement le temps de vous rappeler que sur la scène culturelle, évidemment, le Québec est en deuil. On a perdu
l'une des
plus grandes voix de l'histoire de la chanson francophone québécoise en Nicole Martin. C'est la maladie qui l'a emporté. On sait pas exactement de quoi elle est décédée, mais décédée à 69 ans. C'est pas vieux pour partir comme ça. C'est son copain depuis quoi 20 ans, 30 ans, 35 ans, Lee Abbott, qui l'a annoncé. Ça fait déjà quelques semaines. Elle est décédée le 19 février.
C'est surprenant, ça. Je savais pas. J'ai appris ça ce matin. Là, pis, ouais.
C'est à la demande de Mme Martin, semble-t-il, que M. Abbott a attendu avant d'annoncer son décès.
Parce que ça, c'était pas sorti de nulle part dans le dernier mois. C'est vraiment hier que ça a été comme officialisé.
Exact. Et puis, c'était peut-être question aussi de se remettre sur ses pieds parce que c'est un deuil, tu sais, toujours difficile, long, pénible, que de perdre l'amour de sa vie. C'est d'ailleurs ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Il a écrit Nicole, ma Nicole, l'amour de ma vie est décédée. Elle s'est battue de toutes ses forces contre une terrible maladie fulgurante et sans pitié qui me l'a enlevée en quelques semaines à peine. Alors, c'est pas une lutte qu'elle menait depuis 3, 5, 10 ans. T'sais, on voit des gens parfois qui sont atteints de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, des maladies dégénératives comme ça, mais qui font des ravages sur des années. Ça a duré quelques semaines à peine dans le cas de Mme Martin. Il ajoute sur les réseaux sociaux, « Les plus beaux yeux du monde se sont fermés en me regardant tendrement, sa petite main serrant la mienne. »
Je trouve ça tellement beau comment il a rapporté ça. Là.
Ouais, et il a dit qu'elle avait donc gardé sa bonté, sa dignité et toute sa beauté jusqu'à la fin. Alors avant de prendre une pause, j'ai préparé un petit montage hommage de Nicole Martin.
Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Na 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 na. Jamais, jamais je n'oublierai la première nuit d'amour passée auprès de toi.
À 7h27, on prend une première pause, on revient.